La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue au menu des discussions du Club de la Tête au Carré. Aujourd'hui, des conseils pour apprendre à se méfier de ce qui est estampillé, scientifiquement prouvé, une réflexion sur nos difficultés à concevoir la théorie de l'évolution et des tests pour développer l'agriculture urbaine sur les toits des villes. La Une de la Science avec Agnès Fèvre. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
À la Une, aujourd'hui, les plus anciennes fresques rupestres attribuées à Néandertal.
Et oui, on lui dénie souvent des facultés artistiques à l'opposé d'Homo sapiens, l'homme moderne qui a peint de si beaux animaux. Pourtant, les fresques de trois grottes espagnoles viennent d'être datées à 65 000 ans et Sapiens n'était pas encore là. On en parle avec la préhistorienne Marilène Patou-Matisse.
Vous pouvez réagir sur Twitter avec le mot-clé l'attaque. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisée par Fanny Beauhuon et préparée par Sophie Vaux et Thomas Lehété.
La tête au carré, le club, avec Daniel Fievé. Sur France Inter.
Invité du club de la tête au carré ce vendredi, Jennifer Gallet, Baptiste Grard, Florian Gouttière et Thomas Durand. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Florian Gouttière, vous êtes journaliste scientifique et vous venez de publier Santé, science, doit-on tout gober aux éditions Belin. Votre but, c'est de nous inciter à développer notre esprit critique. Il y a beaucoup de choses fausses ou très approximatives qui sont présentées comme des vérités scientifiques dans les médias.
Oui, et puis c'est pas uniquement, comme ça a été annoncé avant l'émission, que des fake news. Ça peut être des rumeurs, ça peut être des idées reçues qu'on a tous et que même que des journalistes peuvent avoir et sur lesquelles ils peuvent baser leurs articles. Sans penser que peut-être qu'à l'origine de tout ça, il y a une information un peu distordue.
Ouais, on va pouvoir démêler le vrai du faux avec vous. Et puis avec Thomas Durand, nous allons apprendre à nous méfier de notre cerveau. Vous êtes biologiste de formation et vous venez de publier L'ironie de l'évolution aux éditions du Seuil. La question à laquelle vous tentez de répondre, c'est pourquoi les êtres humains ont tant de difficultés à admettre la théorie darwinienne de l'évolution, un peu comme si notre cerveau n'était pas vraiment câblé pour.
Le cerveau est le produit de l'évolution et il marche très bien, sauf quand il ne marche pas très bien. Et les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux qui marchent très très bien. Et donc on a des intuitions qui vont à l'inverse de ce que dit la théorie.
Ouais.
Donc quand la théorie nous dit ce qu'elle nous dit, on n'aime pas ce qu'elle nous dit.
On va éclaircir tout ça, hein. On va se revoir un peu
c'est
plus tard dans l'émission. Également autour de la table, Jennifer Gallet, journaliste à The Conversation, dont la tête au carré est partenaire. Aujourd'hui, vous avez invité Baptiste Grard à écrire un article sur le thème de l'agriculture urbaine. Pourquoi ce thème ?
Déjà parce qu'on est en pleine actualité du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes demain et dans un ensemble d'articles qu'on a consacré ce jour à l'agriculture et à ses mutations, et ben on a fait une place à l'agriculture urbaine parce que ce n'est pas un phénomène anecdotique.
Ouais.
C'est un phénomène en pleine constitution et on a invité Baptiste à écrire sur The Conversation sur ce sujet parce qu'il a mené une expérience qui évalue les services.
Il est avec nous, Baptiste Grard. Il est chercheur à l'école AgroParisTech et à l'INRA. Vous avez installé des potagers sur le toit de l'AgroParisTech pour faire vos tests.
Exactement, on a en fait un potager donc au-dessus de nos têtes, au niveau du centre Claude Bernard d'AgroParisTech, donc dans le 5e arrondissement de Paris. Et sur ce potager, donc on a cherché à voir en fait les bénéfices environnementaux que pouvaient rendre ces potagers et aussi et surtout sur quoi est-ce qu'on pouvait faire pousser ces plantes en toiture.
Allez, on va voir ce que donnent vos tests dans cette émission. Voilà pour les thèmes du jour et les auditeurs peuvent participer et réagir via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. À la Une de la Science, Néandertal, amateur d'art rupestre.
On est allé voir une expo de manga pariétal avec les 4e B. J'ai rien compris à tous leurs trucs, moi. Des parois qu'il faut lire de droite à gauche, des graffitis dans tous les sens. Bonjour le bazar.
De mon temps, tout était beaucoup plus lisible. Les jeunes hominidés n'avaient accès qu'à la peinture rupestre franco-belge. Alors bien sûr, c'était une vision un peu simpliste de l'évolution, mais ça avait le mérite de la clarté.
Extrait de Silex and the City. Les plus anciennes peintures rupestres sur les parois de 3 sites archéologiques en Espagne viennent d'être datées à environ 65 000 ans. Elles ont donc été réalisées 20 000 ans avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. L'un des chercheurs qui a participé à ces travaux parle, je cite, d'une découverte absolument exaltante qui suggère que les hommes de Néandertal étaient beaucoup plus évolués que ce que l'on pensait. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue Science et on en parle, Agnès, avec notre invitée.
Marilène Patou-Matisse, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. Les chercheurs se sont donc intéressés à des motifs qui ornaient les parois de 3 grottes espagnoles, grottes occupées depuis au moins 100 000 ans. Alors, quel type de peinture ont-ils analysé et qu'ont-ils découvert?
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout des tracés, des points. C'est des figures géométriques, on va dire. Et aussi une main. Alors, malheureusement, les peintures n'ont pas très souvent les dater, sauf quand elles sont réalisées, donc avec par exemple du charbon de bois, on peut faire des datations directes.
Et sinon, carbone 14.
Carbone 14, exactement. Et sinon, il faut avoir la chance d'avoir des couches qui recouvrent ces peintures, des couches notamment à base de carbonate, donc de calcite. Et c'est ça qui sont datées. Et ici, dans le cas des trois sites espagnols, c'est justement ces carbonates, ces calcites, qui ont été datées. C'est pour ça que les peintures, comme elles sont recouvertes par ces carbonates, sont plus anciennes qu'eux. Et c'est là où certains de mes collègues, notamment les géochronologues, moi je ne suis pas géochronologue, discutent pour savoir si cette méthode, donc à base d'uranium-thorium, c'est-à-dire les isotopes d'uranium et de thorium, est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'il n'y a pas d'impuretés, des choses qui changeraient, qui modifieraient ces dates, voilà où on en est, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus âgées donc que 65 000 ans.
Oui, c'est ça. Donc, elles sont antérieures
tout à fait
à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Donc, antérieures d'au moins 20 000 ans.
Ah oui. Oui.
Donc, on est sûr que ce n'est pas Homo sapiens qui a fait ces peintures rupestres. On est sûr que c'est Néandertal.
Si les dates sont confirmées, c'est sûr. Là, il n'y a pas d'Homo sapiens du tout à cette période-là. Surtout, en plus, là, on a des sites en Andalousie pour certains. Donc, là, il y a vraiment une certitude. Il n'y a pas Homo sapiens.
Et ces représentations géométriques de couleur ocre, rouge un peu, elles font écho à d'autres formes de peinture déjà découvertes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, bien sûr, ça fait un peu le scoop, hein, c'est écrit dans Nature. Mais en réalité, on a déjà trouvé. On a eu déjà des indices. Par exemple, Michel Lorblanchet, un grand spécialiste de l'art pariétal, s'était déjà interrogé en disant c'est pas possible que la peinture émerge comme ça d'un seul coup avec l'homme moderne. Il y a probablement des prémices, et notamment dans la Grotte des Merveilles, dans le Lot. À Cugnac, on peut aussi réfléchir sur des tracés vraiment de doigts, hein, tout simple, sur des stalactites. On peut penser ça aussi dans la grotte de El Castillo, où il y a un point qui a été daté, là aussi, de 45 000 ans. Bref, il y avait quand même des indices avant. Et alors, ce qui me fait sourire, c'est que dans la France, oui, en fin de compte, les Néandertaliens, ils n'étaient pas si bêtes que ça, quoi. Mais il y a longtemps, quand même. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que je suis avec eux.
Oui,
il y a longtemps qu'on a mis en évidence, quand même, que les Néandertaliens savaient faire des tas de choses. Ouais. Non, par contre, la nouveauté, c'est quand même tout cet aspect symbolique et peut-être cet aspect esthétique. Donc, est-ce que les Néandertaliens ont réalisé des peintures pariétales? C'est la grande question. Et là, il y a quand même un faisceau d'indices.
Là, en tout cas, vous, ça vous surprend pas du tout, cette fibre artistique de Néandertal? Ou bien ça vous laisse indifférente?
Alors, artistique, je sais pas, parce que nous, on parle d'artiste, mais je pense qu'il y avait, on avait beaucoup plus de symboles, c'est pas l'art pour l'art, comme on voit. Non, ça m'étonne pas, parce que je crois qu'il faut être très ouvert. Pourquoi ce pose-t-on pas la question pour quand c'est les hommes modernes? Pourquoi on a décrété? Tout à l'heure, on parlait des idées reçues. C'est intéressant, parce qu'on a toujours décrété, en fin de compte, même si on les datait pas, que toutes les peintures, toutes les gravures pariétales, paléolithiques, étaient Homo sapiens. Mais pourquoi?
Parce que c'est nous qui sommes restés et qu'eux ne sont plus là pour se défendre et pour se mettre en valeur.
Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des a priori, il y avait des préjugés qui font que c'était pas possible. Et plus ça va, plus on découvre. Donc, il y a des tas de choses qu'ils savaient faire et pas seulement l'homme moderne. Du coup, on a ouvert un peu les yeux. On s'est dit, tiens, ils peuvent peut-être faire ça. Et du coup, quand on a les yeux ouverts, eh ben, on voit que c'est, on cherche et donc on trouve. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, bien entendu, par rapport à cette publication, on peut toujours discuter, les datations, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais je pense quand même que c'est des gens sérieux. Il y a beaucoup de datations, c'est pas une seule, c'est trois grottes différentes. Hein. Une en Cantabrie, les autres en Andalousie, je veux dire, c'est pas seulement dans une grotte. Donc il y a un faisceau d'indices. Et je pense que là, il faut un peu s'ouvrir l'esprit et peut-être sortir de certains préjugés.
Je peux demander, je peux profiter de la présence de Florian Gouttière qui justement dans son livre hein, Santé, science, doit-on tout gober, nous invite à réfléchir à la façon dont nous sont présentées les informations scientifiques. Dans ce cas précis, il y a un doute, justement, il y a un doute. La datation, certains scientifiques disent, elle n'est pas forcément juste. Alors, comment on aborde une information scientifique comme celle-ci? Les hommes de Néandertal ont fait des peintures rupestres. Certains nous disent, c'était eux, c'était il y a 65 000 ans. D'autres nous disent, la datation n'est pas fiable. Comment on parle de tout ça?
On s'intéresse justement où en est le consensus scientifique et si ici les experts justement ont des doutes et ont des vrais arguments. En l'occurrence, c'est le cas. Il y a des c'est pas une petite étude isolée écrite par des anonymes qui amène à ces conclusions. Donc on avance avec du conditionnel en précisant justement que les dates sont pas. On n'a pas un appareil qui nous dit c'était le 6 mars et moins oui. Et quelques. Voilà, il y a ces marges d'erreur et en parler juste. L'annoncer, bah ça c'est faire une information scientifique correcte, montrer que voilà, la science est en train d'avancer sur ce sujet.
Une dernière question Agnès?
Oui, pour mieux connaître Néandertal et puis le réhabiliter un petit peu. Dans votre ouvrage, vous dites, Néandertal de A à Z, qui vient de paraître, vous dites « Refuser la possibilité que les Néandertaliens aient eu une pensée symbolique et des aspirations esthétiques, c'est sous-entendre qu'ils n'avaient pas de comportement autre que ceux liés à leur subsistance. Quels sont ces autres comportements qu'on lui connaît à notre ancêtre lointain ?»
Oui, donc il y a énormément de progrès parce qu'on a la chance non seulement de faire des fouilles et de découvrir de plus en plus de vestiges archéologiques parce que nous, les scientifiques, on travaille sur des faits. On ne raconte pas des belles histoires. On est sur des vestiges qu'on analyse. Et on a la chance d'avoir de plus en plus de découvertes, de plus en plus de matériel et surtout des moyens d'investigation sophistiqués. Ouais. Maintenant, on a des techniques qui nous permettent de faire de la biogéochimie, qui nous permettent de l'ADN ancien. Et donc, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et dans ces découvertes, par exemple, vous parlez de la symbolique, il y a des choses extraordinaires. On a découvert, par exemple, qu'ils prélevaient les plumes des oiseaux, mais pas n'importe quels oiseaux. Et on savait qu'ils mangeaient des oiseaux, mais certains oiseaux n'ont pas été mangés. Par contre, on a récupéré les premières ramiches, les grandes plumes. Donc là, c'est sur des rapaces urnes. On a en même temps aussi prélevé. Ils ont en même temps, je me mets en dernier. Ils ont en même temps prélevé des cerfs.
Oui. Vous êtes complètement passé du côté animé, obscur.
Parce que je me dépêche. Sérieusement. Donc au niveau des cerfs aussi, des rapaces d'urnes. Donc c'est pas n'importe quel oiseau. Mmh. Il y a Bruniquel quand même, la grotte de Bruniquel en Tarn-et-Garonne, où on a les deux structures très importantes en stalagmites. Donc ont été faites par les Néandertaliens dans ce monde souterrain, parce que c'est très loin de l'entrée, qui montrent que c'était pas un habitat, il y avait juste des foyers, et c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont été faire quelque chose, quoi, je ne sais. Donc il y a plein d'indices, un faisceau qui commence vraiment grand, qui nous permettent d'ouvrir un peu nos recherches, d'essayer un peu les yeux, et de se dire, bon, il y a peut-être des possibilités, donc ouvrons le champ des possibles, et travaillons pour voir si c'est oui, si c'est non, et l'avenir dira, confirmera ou infirmera.
Et pour mieux le connaître.
Ouais. Pour mieux le connaître.
Merci Marie-Hélène Patoumatis. Et pour mieux le connaître, je rappelle aussi la parution de votre dernier livre, Néandertal de A à Z, paru chez Alary Édition, il y a moins d'un mois. Et merci beaucoup Agnès Ferre. Une dernière petite chose.
Oui, juste, je voulais dire que nous préparons une très très grande exposition avec Pascal Depape, mon co-commissaire, au Musée de l'Homme, sur Néandertal, qui ouvrira le 28 mars.
Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans La Tête au Carré. Merci à vous Agnès Fèvre et à très bientôt j'espère.
À bientôt.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de la moitié des océans sont exploités par la pêche industrielle. C'est ce qu'on peut voir sur une cartographie interactive publiée dans la revue Science. Une équipe de chercheurs issus d'universités et d'ONG a récupéré des masses de données sur les positions de 70 000 navires commerciaux entre 2012 et 2016. Ils ont identifié leur taille, leur puissance, leur type de prise et en somme toute leur activité. Il en ressort que la pêche industrielle exploite au moins 55% de la surface des mers, au moins 55%, car les chercheurs n'ont pas pu analyser certaines zones et estiment que ce chiffre pourrait grimper à 73%. Qui sont les ancêtres de nos chevaux domestiqués? Jusque-là, on pensait que c'était les chevaux de bétail apprivoisés il y a 5500 ans dans les steppes d'Asie centrale, au nord de l'actuel Kazakhstan. Mais l'ADN vient renverser cette idée. En analysant le génome de 22 de ces équidés, une équipe de chercheurs s'est aperçue qu'ils étaient plutôt les ancêtres d'une espèce, les chevaux de Przewalski, censé représenter les derniers chevaux sauvages. Et ils n'ont pu établir aucun lien de parenté avec les chevaux domestiques actuels. Enfin, si vous avez vu mercredi soir une boule lumineuse traverser le ciel un peu après 21h, vous n'avez pas rêvé et votre témoignage intéresse les scientifiques. Il s'agissait d'un météore évoluant à la vitesse de 12 km par seconde. Son passage a été observé depuis le nord-est de la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Visible 7 secondes seulement, il a été filmé par des caméras du réseau d'observation interplanétaire Fripon et d'une base d'observation amateur. Pour compléter leurs données, les astronomes invitent les témoins du phénomène à remplir un formulaire sur le site Vigiciel en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré. Fake news scientifique, théorie de l'évolution et agriculture urbaine au programme des discussions du club de La Tête au Carré. Très bon début d'après-midi sur France Inter.
Se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confet. Par la fenêtre ouverte, avec les feuilles du peuplier. La lune pâle qui traîne encore un peu, regarde-la, elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte triomphe.
Ding dong, l'Erita Mitsuko nous réveille dans La Tête au Carré.
Le club sur France Inter.
Club des Têtes au Carré du vendredi en compagnie du vulgarisateur scientifique multisupport Thomas Durand, du chercheur agriculteur urbain Baptiste Grard, de la journaliste As The Conversation Jennifer Gallet et de Florian Gouttière, journaliste scientifique. Il travaille notamment pour le magazine de la santé sur France 5. Il vient de publier Santé, science, doit-on tout gober aux éditions Belin. Florian Gouttière, les fausses informations scientifiques sont plus nombreuses qu'on le pense dans les médias?
Alors, elles sont vraiment omniprésentes et elles sont pas là où on pense qu'elles sont. C'est-à-dire qu'elles peuvent vraiment se trouver dans votre journal du matin. Je vais me dire, bah, pourtant il y a des journalistes qui vérifient, des fois c'est des dépêches de l'AFP fait bien son travail. Mais en fait on s'aperçoit que Il n'y a pas que la question des fausses informations, ouais. Parce que ce qu'on appelle maintenant les fake news, qui sont vraiment des actes de désinformation, des choses qui sont créées pour semer le doute. Il y a aussi beaucoup ce que j'appelle moi la mésinformation, c'est-à-dire des informations qui sont petit à petit distordues, qui sont des raccourcis et qui peuvent, et ça se produit vraiment quotidiennement, des informations qui arrivent dans nos journaux qui sont très loin de l'information initiale. Mmh. Mais tout le monde pense que les personnes avant vous l'ont vérifié, et donc on se retrouve avec quelque chose de très déformé à la fin.
Alors, pour donner des exemples des différents cas que vous venez de donner, il y a parfois effectivement la volonté de mentir, outrageusement. L'exemple par exemple de l'industrie du tabac qui, dans les années 70, prétendait que ça ne donnait pas le cancer. Là, on est clairement dans la falsification d'informations.
Voilà, là, on est vraiment dans de la désinformation, dans des campagnes actives pour mentir. Et après, on peut aussi aujourd'hui produire sur Internet des articles dont on sait que le contenu est totalement faux. Ça peut être des gens qui veulent vous vendre une thérapie, qui sont les seuls d'ailleurs à vendre, et donc qui vont créer des sites web qui vont promouvoir ces choses-là. Et après, elles peuvent être colportées par des gens qui se disent « Ah bah, si c'est sur Internet, c'est peut-être que c'est vrai. » Ces gens-là, ils citent des études, parfois hors contexte, parfois des études qu'ils inventent même. Peu importe. Donc ça, c'est de la vraie désinformation.
Après, il y a les rumeurs, canulars, qui finissent par se répéter. Vous avez des exemples, hein. Par exemple, le pénis captivus. Expliquez.
C'est un fameux exemple. Beaucoup de gens ont entendu parler du fait que monsieur peut rester coincé dans madame. Et on a des exemples. Récemment, à chaque fois que j'en parle, il y a quelqu'un qui me dit « Ah mais oui, je connais quelqu'un. »
À qui c'est arrivé ?
À qui c'est arrivé ? Il n'y a pas longtemps, c'était à Nantes. Et d'ailleurs, c'était un prêtre. Et en fait, tu dis « Mais tu le connais vraiment ?» Bah non. Et en fait, on est remonté à la source de ce mensonge-là. Et on sait exactement qui, dans quel contexte, l'a inventé. Il y a 130 ans, c'est un médecin qui voulait faire une blague à un collègue et elle a eu énormément de succès. Et beaucoup de gens sont encore persuadés que c'est vrai et vont même avoir peur dans leur adolescence que ça leur arrive. Alors ça dérive juste d'un canular. Mais voilà, c'est dans la tête des gens comme si c'était vrai. Et c'est pas une fake news dans le sens où ils n'ont pas essayé de créer une information vraiment mensongère. C'était une blague qui a mal tourné.
Un autre exemple assez récent, hein, c'est Richard Ramos qui est député Modem du Loiret. Il était invité sur le plateau de l'émission C'est Politique sur France 5. C'était le dimanche 11 février. Donc c'est assez récent. Il alarmait sur une liste d'additifs alimentaires très nocifs censés avoir été publiés par l'hôpital de Villejuif.
Je vous ai amené quelques produits. Alors déjà, je vous ai sorti une liste là qui a été publiée par l'hôpital de Villejuif. Donc des gens vraiment sur les produits cancérigènes et les produits dangereux. C'est Villejuif qui le dit. Et le pire de tous, c'est le E330. Mais il est en rouge partout. Hein. Moi, je prends un produit aujourd'hui.
Une salade nordique.
Et derrière, je regarde, il y a du E330. Mais je me dis, on marche sur la tête, on devient fou. Mais c'est toxique.
Voilà, ce député qui pousse un cri d'alerte, donc, le 11 février dernier, dans l'émission C'est Politique. Sauf que le E330, dont il dit que c'est très toxique, qu'est-ce que c'est le 330?
C'est l'acide citrique qu'on retrouve en masse dans le jus de citron, dans n'importe quel citron. Hein. En fait, j'ai appelé Richard Ramos parce que c'est un très grand classique du canular. En fait, c'est un canular malveillant. C'était un tract qui, à la fin des années 70, s'est retrouvé dans les boîtes aux lettres de tous les habitants du Val-de-Marne, dont je faisais partie. Moi, mes parents ont banni tous les produits qui contenaient du E330 de l'alimentation. Et puis, dans les années 2000, je suis tombé sur des démentis innombrables qui avaient été émis par l'hôpital de Villejuif, qui n'a jamais diffusé ça. Et c'est une déformation, a priori, de quelqu'un qui a alerté après avoir mal compris un article de Science et Vie de fin décembre 1975. Alors, le problème, c'est que ça se colporte. Ouais. Et donc, j'ai appelé Richard Ramos, et ce qu'il m'a dit, c'est que voilà, on lui avait imprimé cette liste peu avant, et puis il n'a pas pensé à vérifier, mais c'était la première requête qui est apparue, et puis on nommait
sur
un
Internet,
hôpital.
Sur Internet, au moment de la recherche.
Voilà, donc c'était une information populaire, et on citait un hôpital. Ça lui a suffi dans le mouvement. Mais...
Donc, une liste fausse créée dans les années 70, en 2018, elle sert encore d'arguments et de preuves sur un plateau de télé.
C'est ça, et c'est fou. Et le problème, c'est que la vérification, elle prend très peu de temps. Justement, comme c'est un canular très connu, il suffit de taper E330, on voit tout de suite arriver acide citrique. Et sur la même, j'imagine, sur la page Wikipédia, on vous parle du canular de Villejuif. Et donc, dans cette émission, Richard Ramos disait, il faudrait faire de l'éducation pour que les enfants apprennent à savoir ce qui est la bonne alimentation, qu'ils savent lire des étiquettes. Et donc, à l'issue de notre entretien, il m'a dit, mes aventures prouvent aussi qu'il faudrait une éducation à l'information scientifique, ce à quoi je peux pas lui donner.
Oui, alors effectivement. Parce que vous, ce que vous dites aussi très bien dans votre livre, c'est que assez facilement, mais nous tous, dès qu'on entend parler, c'est scientifiquement prouvé selon une étude, on baisse la garde, on se dit attention, les experts parlent, et on oublie notre esprit critique ou de remettre en question ce qu'on nous raconte.
Bah en fait, on oublie plein de choses, et notamment, ça c'est vraiment le reflet d'une idée complètement déformé de ce qu'est la science. On pense voilà que la science c'est des gens en blouse qui produisent la vérité dans leur laboratoire. En fait, la science c'est un processus qui est collectif, qui est correctif, qui est cumulatif. Et lorsqu'on voit marqué selon une étude, déjà ça devrait nous alerter en tant que lecteur. Mmh. On devrait dire mais de quelle étude s'agit-il ? Est-ce que c'est une étude sur 3 lapins et 4 souris ou est-ce que c'est une étude qui a été menée pendant 20 ans sur 600 000 êtres humains ? Et puis même si c'est sur 600 000 êtres humains, est-ce que c'était uniquement des jeunes femmes ? Dans ce cas-là, les informations vont peut-être pas pouvoir être extrapolables aux hommes âgés, mmh. etc. Donc, le fait que le grand public entende le mot « étude » comme un synonyme de travail qui, en soi, prouve quelque chose, c'est faux. Une étude isolée ne prouve rien. C'est la répétition de ces études, c'est la confirmation de ces travaux qui va faire sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recherches qui ont été faites pour savoir... les médias, de quelles études ils parlent ? Ils parlent souvent justement d'études qui viennent amener sur le devant de la scène des choses qu'on ne savait pas, mais qui sont aussi très, très, très douteuses, qui pourraient être un hasard statistique. L'exemple que je donne, c'est si vous prenez, si vous faites des tests sur des souris, vous essayez de tester un médicament, vous mettez d'un côté un groupe de souris sur lequel vous devez tester le placebo, mais si par hasard vous avez mis beaucoup de souris bien portantes d'un côté et des souris mal portantes sur l'autre, même si votre produit est inefficace, par hasard vous allez avoir l'impression que votre médicament a servi à quelque chose. Parce que par hasard, vous avez réparti vos souris.
Vous avez mal réparti. Pour éviter ça, il faut refaire les expériences, il faut qu'elles soient reproductibles.
Et ce qui est fou, c'est que on voit que les journalistes parlent rarement des réplications des études. Ils parlent souvent des études initiales. Mmh. Et en fait, une majorité d'études dont on parle dans la presse, qui est la grande presse, sera réfutée par des méta-analyses, des synthèses d'études. Donc quand on a ça en tête, on se dit que nous, lecteurs, on devrait surtout prêter attention aux articles. Quand il dit selon une étude, ça devrait être selon une méta-analyse, là, ça devrait nous intéresser. Mais si c'est selon une étude toute nouvelle, qui va même à l'encontre de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, par exemple, une étude qui dit pour la première fois, on voit que la Lune influe sur le sommeil. Toutes les études avant montraient le contraire. Ça dit clairement que c'est vraisemblablement une anomalie statistique. Mmh.
Toutes les premières scientifiques ne sont pas forcément des fausses tout, nouvelles, mais effectivement, demandent à être
mettre du conditionnel. Il y a une petite phrase qui devrait apparaître à tout coup, ça devrait être « si ces résultats sont confirmés ». Et malheureusement, elle passe souvent à l'as.
Alors, vous incitez aussi à se méfier du discours du médecin. Vous travaillez pour le journal Le Magazine de la Santé. Votre livre est aussi bien sur les sciences que sur la santé. Et en matière de santé, il y a énormément de pseudo-thérapies qui sont colportées, y compris par les médecins.
Alors, y compris par des médecins qui, au cours de leur cursus, ont eu l'occasion d'échanger avec des personnes. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, qui ils peuvent... ne pas être à jour de l'état des connaissances scientifiques dans leur domaine médical, mais il y a aussi des pseudo-thérapies qui sont enseignées à l'université. Alors parfois, c'est dans des modules complémentaires. Et puis, il y a aussi, moi j'ai été surpris de voir qu'il y a des très grands cancérologues, des experts, des directeurs d'instituts qui vont colporter des choses qui les séduisent, qui flattent leurs préjugés. Et il y a quelques années, il y avait donc un cancérologue très célèbre qui avait été interviewé sur France 2 et qui avait expliqué, par exemple, qu'il faut, pour limiter les risques de cancer, il vaut mieux faire l'amour sans préservatif. Il a été directeur d'un grand institut de cancérologie, mais on dit, mais comment est-ce qu'il peut amener ça? Il disait, mais il y a une étude. C'était une étude macédonienne qui avait été menée sur 16 femmes, un truc qui n'a jamais été répliqué encore une fois. Et voilà, ça flattait ses préjugés. Mmh. Et c'est assez grave. Mais effectivement, il y en a d'autres qui ont des préjugés sur la façon dont fonctionne le corps humain, qui vont parler d'énergie parce que quand ils étaient petits, ils ont été sensibilisés à ces choses-là. Même si tous les travaux qui existent vont à l'encontre de ça, eux, ils sont quand même en direct avec leurs patients et peuvent colporter des informations qui vont à l'encontre de ce que tout le monde dit.
Une courte réaction de Thomas Durand.
Quand un médecin prononce le mot quantique, Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut fuir très vite?
Est-ce qu'il y a des mots-clés qui nous enfument?
Il y a pas mal. Il y a le mot énergie, il y a le mot quantique. Alors surtout si c'est pas un médecin, c'est quelqu'un qui s'auto-définit thérapeute. Mais même des médecins qui vont parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, eux, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à être convaincus de ça. Pour moi, c'est vraiment le moteur de tout, qu'on soit journaliste, qu'on soit lecteur. Se poser la question, quand on nous affirme quelque chose qui nous surprend, des mots qu'on comprend pas, des mots qui font référence à un domaine très étrange, voilà, la mécanique quantique, est-ce que ça a vraiment un rapport avec la médecine ? Se dire, mais comment est-ce qu'à l'origine, la personne qui a lancé ça sur le marché de l'information a fait la démonstration que la chose était vraie ? Et parfois, lorsqu'on commence à rentrer dans cette discussion avec le médecin, il dit, je suis allé dans un séminaire de développement personnel, on m'a parlé de ça. Et voilà, remonter à la source de l'information, c'est assez intéressant.
Apprendre à se méfier. Merci Florian Gouthière. Je rappelle le titre de votre livre, Santé, Science, doit-on tout gober, aux éditions Belin. Et là, vous allez filer parce que ce soir, à 18h, vous serez à Saint-Dizier pour parler justement esprit critique, mésinformation en sciences et en santé. Ça se passe à la librairie Larcelet à Saint-Dizier, pour ceux qui voudraient poursuivre la discussion avec vous. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, on s'intéresse à la théorie de l'évolution. Si les théories de Darwin semblent difficiles à admettre, c'est peut-être précisément à cause de l'évolution de notre cerveau. C'est ce que nous allons voir dans la suite de La Tête au Carré sur France Inter. Daniel Lupi avec Parquet Court, Soul and Cigarette.
La Tête au Carré, le club sur France Inter.
Le club des Têtes au Carré avec Jennifer Gallet, Baptiste Grard et Thomas Durand. Thomas Durand qui est docteur en biologie, écrivain, co-créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation La Tronche en Biais, qui connaît un grand succès. Et Thomas Durand, vous venez de publier L'ironie de l'évolution aux éditions du Seuil. C'est vrai que l'évolution, c'est pas forcément simple à admettre.
Moi aussi, hein, y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas. Tel que le triangle des Bermudes ou l'évolution.
Tu veux dire que tu ne crois pas en l'évolution?
Je sais pas, je t'avoue que les petits singes, Darwin, c'est vrai que c'est une jolie histoire, mais cela dit, je la trouve légèrement trop facile.
Trop facile? Tu veux dire que la manière dont tous les êtres vivants sur cette planète ont évolué au cours des millénaires avec au départ un organisme unicellulaire est trop facile?
Ouais, j'ai du mal à l'avaler.
Écoute-moi, j'ai étudié la théorie de l'évolution durant toute ma vie, tu piges, et une chose est sûre, nous avons des fossiles qui nous viennent de partout dans le monde, et ceci démontre avec évidence l'évolution des différentes espèces.
Ouais, enfin, la véritable question, c'est qui a mis ces fossiles là où ils sont et pourquoi ?
Extrait de Friends avec Phoebe qui a du mal à avaler cette théorie de l'évolution. Thomas Durand, elle n'est pas admise par tout le monde, la théorie de l'évolution. Et même ceux qui ne la contestent pas, finalement, la comprennent pas très bien. C'est ce que vous nous dites.
Ouais. Bah, déjà, il n'y a pas de théorie qui soit plus haïe que celle-ci. Dans l'histoire, à ma connaissance. On a eu Galilée et la Terre qu'on voulait au centre, ça a un peu gêné les gens, mais on s'y est fait, quoi. Mais la théorie de l'évolution, dire que rien n'est fixé, que tout bouge, qu'il n'y a pas de morale. Parce qu'en fait, si nous on est là, c'est pas parce qu'on est en Néandertal tout à l'heure. Peut-être qu'ils étaient bien aussi, hein, peut-être qu'ils étaient mieux que nous, en fait. Ouais. Mais il se trouve que, pour X raisons, des maladies ou leur environnement ou leur histoire, bah, c'est nous qui sommes là. Et, enfin, même si on a 2% dans notre génome qui reste, bah, voilà, c'est nous qui sommes là. Et on a tellement envie que ça ait un sens, que nous on soit là, qu'on n'a pas tellement envie que ça soit du hasard.
Elle a quelque chose de contre-intuitif pour nous, cette théorie de l'évolution?
En fait, tous nos raccourcis mentaux vont à l'inverse de ce que la science nous dit. Mais en général, la science, c'est toujours, enfin quasiment toujours, des découvertes qui vont à l'encontre des intuitions. Quand Galilée nous dit que les corps tombent à la même vitesse, on voit que non, en fait. Donc c'est Étienne Klein qui le dit souvent, ça. Voilà. On a des intuitions et la science nous dit, ah, en fait, c'est pas exactement comme on croit. Et sur l'évolution, bah, il s'avère que la Terre est beaucoup plus vieille que ce qu'on peut croire. Donc ça dépasse totalement ce qu'on peut imaginer en termes de durée. Un siècle, on voit ce que c'est. Deux siècles, on imagine. Un millénaire, bon, bah, on comprend à peu près. Mais alors, dès qu'on parle de millions d'années, ça veut dire quoi? Je pense pas que c'est ça possible de concevoir un million d'années. Donc là, on est à une échelle où ça marche plus. On voit que les chiens font pas des chats. On sait bien que c'est deux choses séparées. On s'attend pas à ce qu'au bout de 20 générations, un chien donne un chat. Oui, mais... Ça, c'est... Mais dans le passé, en revanche, le chien et les chats avaient les mêmes ancêtres, donc il s'est bien passé quelque chose. Ça dépasse un peu ce qu'on peut voir. Et surtout, comme un chien, un chat, une rose, c'est à une échelle où on interagit avec, c'est pas un atome, c'est pas une galaxie. Sur les atomes et les galaxies, quand les physiciens nous parlent, on les écoute. Parce qu'on n'a pas d'a priori.
Il y a quand même deux, trois trucs qu'on a du mal à comprendre. Quand les physiciens nous disent le temps est relatif, on se dit on a du mal à comprendre. Notre cerveau n'est pas vraiment prévu pour comprendre ça. Quand on nous parle d'atomes, quand on nous dit cette table est constituée d'infimes atomes, de petits morceaux discontinus, on l'admet, c'est un peu contre-intuitif. Mais c'est vrai qu'à notre échelle, finalement l'évolution, c'est à notre échelle et là aussi... On a du mal à l'entendre.
La grande différence, c'est qu'on a conscience qu'on n'a pas accès aux atomes. On a conscience qu'on ne voit pas une galaxie, on voit une bande dans le ciel, ça peut être autre chose. En revanche, quand on nous parle d'un rosier, d'un opossum ou d'une girafe...
On a l'impression de savoir de quoi il retourne.
Bah voilà, on se dit bah quand même, une girafe, bah, à quoi ça ressemble. Si elle a un long cou, c'est bien pour quelque chose. Donc c'est parce qu'il fallait que son cou s'allonge. Bah, mais oui et non, parce que... Le coup de la girafe, il y a le bouquin de Léo Grasset que je salue, vous pouvez acheter. Ça peut être un peu comme la queue du paon. Ça peut être que c'est pas juste pour atteindre les feuilles, peut-être que c'est juste parce que c'est un attrait sexuel aussi pour les partenaires.
Alors, donc, là,
c'est
autre chose. Dans les idées un peu reçues que l'on a de l'évolution, par exemple, vous dites c'est une erreur de penser que la plume est liée au vol. Pour vous, c'est notre façon d'imaginer que tout a un but, tout a un sens, alors que non, la plume préexiste au vol.
Voilà, on voit dans les traces des dinosaures qu'on a des dinosaures qui ne sont pas du tout aviaires et ils ont des plumes. On a à l'heure actuelle des animaux qui volent et qui n'ont pas de plumes. Donc il y a une corrélation, beaucoup d'animaux qui volent ont des plumes, mais il n'y a pas de causalité. Mmh. Et la plume, initialement, avait sans doute d'autres fonctions, et puis à un moment donné, on a une exaptation, c'est-à-dire c'est une sorte de préadaptation, c'est-à-dire qu'on avait des attirails, des choses, donc des plumes, Et en fait, il s'avère que les animaux qui l'avaient avaient un avantage pour assurer une fonction. Donc, la fonction s'est développée au fil des générations et ça s'est fixé. Mmh. Et notre cerveau humain, il aime les fonctions. On aime voir des liens de causalité.
Ouais.
Quand je vois un clou et que j'ai un marteau à côté, je vois bien qu'il y a un lien entre les deux. Mmh. Mais comme on dit, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou, quoi. Donc, il faut éviter de croire que tout ce qui a une feuille, des plumes, doit voler parce que on aurait un marteau dans la tête.
Ce lien de causalité, vous le dites, pour un enfant, il voit un nuage. S'il y a un nuage, c'est qu'il est fait pour pleuvoir.
Oui, ça, c'est des études en psychologie qui ont bien montré que les enfants et même les gens très âgés qui avec Alzheimer, reviennent vers des fonctionnements plus primitifs, enfin, pardon pour le mot, spontanément, on va attribuer une fonction aux objets. Mmh. Donc le nuage est là pour pleuvoir, le rocher est là pour que les animaux puissent se gratter. Ouais. Donc il y a une sorte de biais de téléologie. On voit un but aux objets parce que, en tant qu'être humain, c'est utile pour nous d'attribuer des buts aux objets parce que c'est comme ça qu'on trouve de la nourriture, qu'on trouve des outils, qu'on se défend et qu'on s'abrite, etc.
Autre formulation un peu erronée dans le domaine de l'évolution, l'homme descend du singe. Aucun scientifique n'a jamais dit que l'homme descendait du singe.
Il faudrait qu'on montre où est-ce que Darwin aurait écrit ça ou ça. Non, ça c'est une déformation. On a cette idée de l'image d'Épinal, de la marche vers l'évolution. Vous avez ce singe à gauche et puis cet homme un peu dressé, puis à la fin on a un homme tout droit, voilà. Alors d'abord c'est que des hommes, c'est bizarre, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des femmes dans l'affaire. Et ensuite le singe qui est à gauche, c'est un chimpanzé. Il est actuel, il n'est pas dans le passé. Ouais. Si on remonte dans le temps...
On ne descend pas de nos cousins, c'est ce que...
Voilà, c'est ça. Ouais. Donc le chimpanzé actuel, il est pas, c'est pas un ancêtre, c'est un cousin. Donc l'homme est un singe. On est un grand singe, Homo sapiens, les hominidés, etc. Enfin, on avait une dame spécialiste de la question de tout à l'heure. Mais ce n'est pas très, très folichon de se dire qu'on est un singe. Mm-hmm. Pourtant, quand on dit qu'on est un mammifère, c'est moins gênant. Les gens sont moins gênés des mammifères que d'être des singes. Alors que bon, les singes sont des mammifères, quoi. Enfin, c'est des familles qui sont imbriquées. Et on a tellement envie d'être un peu différent parce que on a besoin d'avoir du sens dans la vie que c'est-à-dire qu'on est juste des singes qui avons perdu un peu plus de poils et gagné un peu de vêtements. Que c'est pas flatteur. La science ne nous flatte pas. Et la télévision, c'est celle qui nous flatte le moins. En fait.
Alors, notre difficulté, on le comprend, hein, à avoir comme ça, à appréhender l'évolution, c'est finalement notre cerveau qui, justement, est le fruit d'une évolution qui n'avait pas besoin qu'on comprenne l'évolution pour se développer.
Il y a plein de choses qu'on fait spontanément. On sait reconnaître des visages. Les ordinateurs ont du mal. Ça commence à venir. Mais nous, on fait ça sans aucun effort. Il y a des choses pour lesquelles c'est plus dur, c'est jouer aux échecs ou au go. Et ça, les ordinateurs y arrivent mieux que nous maintenant.
Ouais.
Donc ça montre que les choses qu'on fait spontanément, facilement, c'est celles qui étaient importantes pour nos ancêtres.
Pour survivre.
Savoir reconnaître un visage et lire des émotions. Lire une émotion sur un visage, c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Enfin, en termes de complexité. Bon, on y arrive très très bien.
Ouais. Par contre,
il fallait vivre avec ça.
Comprendre l'évolution pour survivre, c'était absolument pas nécessaire.
Et encore à l'heure actuelle, c'est pas très grave de pas comprendre. Ouais. Juste, il faut éviter de nier, de rejeter parce qu'on n'a pas compris.
Allez, une dernière chose. Est-ce que vous pensez que cet argument de dire finalement, si on ne comprend pas l'évolution, c'est la preuve qu'elle existe parce que notre cerveau n'a pas sélectionné, n'avait pas besoin d'être sélectionné pour comprendre l'évolution. Vous pensez que ce genre d'argument va convaincre les créationnistes?
Vu de loin, ça ressemble à un argument circulaire.
Oui, un peu.
Qu'on retrouve dans la psychanalyse où on dit que si vous refusez, c'est que vous refoulez, donc c'est qu'on a.
Ouais. Vrai.
La différence, c'est que la psychanalyse est une pseudo-science et j'aimerais que France Inter le retienne d'ailleurs. Parce que je sais, à votre antenne, j'en profite pour dire ça. Alors que la théorie de l'évolution, elle savait 150 ans qu'elle se remet en question, qu'elle est testée, et qu'on sait bien que si on trouve un lapin dans le Cambrien, un squelette, on saura bien qu'il y a un problème et qu'on a tort. Donc c'est une théorie qui est constamment sur la sellette, parce qu'on sait bien qu'on n'a pas tout compris. Maintenant, les créationnistes sont des gens pas plus bêtes que d'autres, mais qui sont très motivés pour croire autre chose. Et il y a une incompatibilité entre ce qu'ils veulent croire et ce que la science leur dit. La science n'est pas là pour leur faire plaisir.
Thomas Durand, votre livre s'intitule « L'ironie de l'évolution ». Il est paru aux éditions du Seuil. Et vous aussi, vous donnez un rendez-vous pour ce soir. Vous
ce êtes soir, où, ce à soir 20h, oui, on est en direct sur la tronche en biais, donc sur YouTube. On va parler des musées créationnistes avec un invité qui vit aux États-Unis, qui est géochimiste, et qui est allé visiter les deux grands musées créationnistes aux États-Unis. C'est assez dingue, en fait, de dire qu'il y a des dizaines, des centaines de millions de dollars investis pour dire que la Terre a moins de 10 000 ans.
Donc alors, ça se passe où?
C'est sur YouTube.
Sur YouTube.
Sur Internet.
D'accord, sur Internet. Donc un rendez-vous où tout le monde peut y aller.
Voilà, c'est gratuit. Venez.
Dans un instant, on part planter des choux sur les toits de Paris. Nous allons voir ce que donnent les tests des scientifiques en matière d'agriculture urbaine. C'était Barbara Gallo, L'échappée sur France Inter.
La tête au carré, le club.
Autour de la table, Thomas Durand, biologiste de formation et écrivain, Baptiste Grard, chercheur en agronomie, et Jennifer Gallet, journaliste pour le site internet theconversation.fr, dont nous sommes partenaires. Et aujourd'hui, Jennifer Gallet, vous mettez en ligne sur votre site un article sur l'agriculture urbaine.
C'est presque dommage de faire pousser des tomates avec vue sur tous les monuments de Paris. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant.
On peut cultiver, par exemple, des variétés de tomates anciennes qui, d'habitude, se trouvent pas dans le commerce parce qu'elles se transportent mal, ou des fraises, des plantes aromatiques. Ça permet d'avoir plus d'espace vert en ville, de gérer les eaux de pluie en cas d'orage, de rafraîchir le bâtiment aussi. On essaye de montrer aussi, par des recherches scientifiques, qu'en fait, quand on était en hauteur, a priori, on était beaucoup moins touché par la pollution que des sites qui pouvaient être à ras du sol.
Vous l'avez reconnu, cet agriculteur des Tours, on était sur l'Opéra Bastille, et vous me disiez, Baptiste Grard,
c'est... Sauf erreur de ma part, c'est Frédéric Madre, qui est une personne qui a fondé une entreprise qui s'appelle Topagie.
D'accord, et nous étions sur les toits de l'Opéra Bastille. Jennifer Gallet, si The Conversation a décidé de consacrer donc un article à l'agriculture urbaine, c'est que pour vous, ça y est, ça décolle, c'est une pratique agricole d'avenir.
Alors... pas qu'un article, plusieurs articles sur The Conversation sur ce sujet, mais parce que c'est très intéressant de suivre en fait ce fourmillement de choses qui se passent autour de l'agriculture urbaine, que ce soit sur des aspects sociologiques ou plus scientifiques, comme va nous l'expliquer Baptiste. En fait, on s'aperçoit aussi qu'on a de plus en plus d'informations précises sur ce qu'elle pourrait faire, on a un peu souvent l'idée qu'elle pourrait peut-être remplacer des façons plus conventionnelles de produire de la nourriture, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est aussi dans le contexte du changement climatique, dans qu'est-ce que c'est que de vivre dans une ville qui va être de plus en plus densément peuplée. Donc c'est toutes ces problématiques actuelles que l'agriculture urbaine aborde. Et donc nous, on a vraiment décidé de suivre en fait les différents projets, les différentes recherches sur ce thème.
Alors, l'article est signé Baptiste Grard, qui est chercheur à l'Agro ParisTech et à l'INRA. Vous avez mené des expérimentations très concrètes sur les toits de l'Agro ParisTech. Expliquez-nous.
Oui, donc il n'est pas que signé que de moi, mais donc l'objectif de l'expérimentation, il est double. Il est d'abord de partir d'une idée qu'est le dire, ces espaces de nature qui sont artificiels. Pour faire pousser les plantes, on a besoin d'un sol. Et pour ce sol, nous, notre idée, c'était de réutiliser des matières qui viennent de la ville et donc des résidus urbains, en l'occurrence comme du compost de déchets verts, du marc de café, du bois broyé, des choses comme ça.
Donc vous avez testé différentes sortes de sols.
En fait, on teste différentes compositions de sols et on essaye de regarder la manière dont ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et dans qu'est-ce qu'on peut en attendre, il y a justement ce dont parlait Frédéric, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous scientifiques, les services écosystémiques, mais de manière un peu plus claire, on appelle ça des bénéfices environnementaux qu'on peut tirer de ces espaces. Et donc voir en fonction du choix du sol notamment qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces espaces et quels bénéfices environnementaux ils peuvent rendre.
Oui. Alors quel genre de légumes vous faites pousser sur ces différentes sortes de terres ?
à peu près tout ce qu'on peut imaginer en maraîchage, de la salade, de la tomate, du chou, des haricots, des blettes, des courgettes. On peut faire pousser en fait à peu près tout ce qu'on veut. La question majeure, c'est d'adapter le type de sol au type de légumes qu'on souhaite faire pousser.
Et alors, quels sont les sols qui fonctionnent le mieux, d'après vos tests ?
Alors, juste là, nous, c'est important. L'objectif, c'est pas tant de donner une recette un peu miracle et dire aux gens, vous mettez 2 grammes de marc de café et 3 grammes de compost et vous aurez comme ça la solution pour la ville de demain. L'idée, c'est plus de mettre en avant donc des modèles, je redis, mais à partir de résidus urbains. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a notamment comparé des bacs, donc concrètement c'est des bacs de culture en bois de type compostière dans lesquels on met du sol, en l'occurrence sur 30 cm. Et donc nous, l'un des premiers résultats qu'on a eu, c'est qu'on voit que par rapport à un terreau que tout un chacun pourrait acheter et qui pose un certain nombre de questions, notamment environnementales du fait de l'utilisation de la tourbe, on voit qu'en n'utilisant que des résidus urbains, on obtient des résultats équivalents, si ce n'est meilleurs. Et donc il y a une pertinence à utiliser ces résidus de la ville en tant que sol.
Alors, on va être concret, c'est quoi les résidus de la ville ? Vous mettez quoi
Alors,
exactement ?
Alors, nous, globalement, il y en a 5 qu'on utilise dans nos expérimentations. Donc, dans cet article, précisément, on a utilisé 2 qui sont un compost de déchets verts, c'est-à-dire tous les déchets d'élagage, comme la tonte de gazon, des arbres, du bois broyé qui, pareil, vient de l'élagage des arbres. Ce qu'on appelle un résidu de champignonnière, c'est en fait une entreprise qui s'appelle la boîte à champignons, qui fait pousser les champignons sur du marc de café, et une fois que les champignons poussés, nous, on récupère ça. Et deux autres produits que sont le compost de biodéchets, que concrètement on peut faire à partir des épluchures que tout un chacun produit, et de la brique et de la tuile concassée, qui est un déchet du bâtiment. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment de dire que la ville peut être ressource d'un certain nombre de produits qui, à l'heure actuelle, sont vus comme des résidus et des déchets, et qu'on peut les utiliser et les valoriser autrement.
Et alors, pas uniquement pour produire des légumes, mais aussi, et il y a d'autres services que rendent ces cultures qui sont proposées sur les toits.
Oui, on pourrait même un petit peu inverser la manière dont on le voit, c'est-à-dire qu'on sait déjà que l'agriculture urbaine ne nourrira pas les villes de demain. Ouais. C'est pas...
On a une idée de ça, on est capable de le chiffrer.
Il y a peu d'études, on va dire, au global sur le sujet, mais il y a quand même maintenant un certain nombre d'études qui ont voulu estimer justement cette première idée qui est de dire l'agriculture urbaine va nourrir les villes de demain. Et notamment, je pense à des collègues néerlandais qui ont estimé sur une étude où ils sont intéressés à une ville moyenne en Europe d'un million d'habitants. Et ce qu'ils ont montré, eux, c'est qu'en gros, on arrivait autour de 3% de production alimentaire, même dans un scénario où on mettait de l'agriculture urbaine partout où on pouvait.
Donc, que les agriculteurs qui ne sont pas en ville ne s'inquiètent pas, on a encore besoin d'eux à la campagne.
Bien
on n'est pas
oui.
en train de nourrir toute la ville en autosuffisance avec ces
oui,
cultures.
Oui, et je pense que la vraie question et l'opportunité, c'est justement de voir cette agriculture urbaine comme... déjà pouvant refaire le lien aussi d'urbains qui sont pour l'instant beaucoup déconnectés avec des problématiques de production alimentaire, donc de refaire ce lien urbain avec le milieu rural. Et par ailleurs, en fait, de rendre justement ces fameux services dont on parle. Donc concrètement, ces services, c'est quoi ? C'est par exemple le fait que ces toits vont retenir de l'eau. Pourquoi c'est important ? Bon, on est dans un contexte actuel, notamment à Paris, où il y a des problèmes d'inondation. C'est pas lié qu'à l'imperméabilisation des sols, mais c'est quand même beaucoup lié à ça. Et donc ces toits peuvent faire, s'ils sont développés à large échelle, ces toits végétalisés peuvent faire un rôle d'éponge, retenir de l'eau. Les autres services, ça va être par exemple donc de valoriser des résidus de la ville, donc à l'heure actuelle des déchets concrètement qui sont perdus, incinérés ou enterrés, éventuellement de stocker du carbone et de produire des aliments.
Alors stocker du carbone, en quoi le fait de cultiver des légumes sur les toits, ça stocke du carbone ?
Oui, alors donc dans l'article, ce qu'on a fait, ce qui est discutable dans l'absolu, mais c'est qu'on a considéré que le carbone qui était présent en fait dans ces déchets, vu que normalement ces résidus urbains ils sont pour le moment soit incinérés majoritairement soit enterrés, ce carbone étant normalement perdu, on a considéré que le fait de l'apporter en toiture était en fait une forme de stockage. Donc ça, c'est une première chose au niveau du carbone. La deuxième chose, et qui est la question sur laquelle maintenant on travaille, c'est le devenir de ce carbone qu'on apporte. C'est-à-dire que c'est bien apporter du carbone, mais toujours la question qu'il faut se poser, c'est la question du temps de résidence de ce carbone. Donc c'est justement ce qu'on étudie désormais.
Ouais. Architecturalement, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'on peut comme ça réquisitionner tous les toits de Paris et d'ailleurs sans que les bâtiments s'effondrent, parce qu'ils n'ont pas été conçus pour qu'on y fasse pousser des choux, tous ces toits ?
Très bonne question. Et du coup, donc à Paris, pour prendre cet exemple-là, dans Paris intramuros, on va dire qu'Haussmann ne nous a pas vraiment rendu service. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de toits, notamment en zinc, qui ont une portance en gros qui est aux alentours de 150 kg par mètre carré, donc qui ne supportent pas ça. Nous, les systèmes sur lesquels on travaille de culture, ils sont faits en fait pour être implantés sur toute toiture qui va être accessible au public, c'est-à-dire avec une portance autour de 500 kg par mètre carré. Et ce qui veut dire que nos sols, le poids qu'on considère, c'est quand ils sont chargés d'eau. Donc nos sols gorgés d'eau, même au poids le plus élevé, pourront être faits sur ces toitures. Donc dans Paris intramuros, on sait déjà que le potentiel est relativement faible, autour de 80 hectares. Mais bon, il faut déjà les coloniser potentiellement, ces 80 hectares. Et à Paris et ailleurs, le vrai potentiel, il est sur des bâtiments plus récents et aussi sur les bâtiments de demain. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des questions de conception de la ville de demain. Mmh. Et penser cette ville aussi comme étant fonctionnelle d'un point de vue écologique.
Alors, vous savez que ces émissions sont enregistrées puis archivées à l'INA. Quand on exhumera cette interview dans 10, 20, 30 ans, vous pensez que vous passerez pour un visionnaire ou pour un hurluberlu, un doux rêveur?
Alors, je pense ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ça n'a rien de nouveau. C'est-à-dire que dans les années 1900, on avait des maraîchers en plein cœur de Paris, donc c'est pas une innovation en tant que telle.
Ouais.
L'innovation, elle est sur les formes qu'on va retrouver, le fait qu'on puisse étudier et savoir précisément l'impact que vont avoir ces toitures et ce qu'on va en attendre. Mais non, je pense que je passerai ni pour l'un ni pour l'autre. Simplement, je pense que c'est vraiment important que désormais on pense nos villes aussi d'un point de vue écologique et d'un point de vue impact environnemental.
Et ça n'est pas une lubie de bobo, comme certains le disent.
Non,
ça vous
c'est pas la question, mais je pense qu'on aurait pu voir ça comme une lubie de bobo, notamment en 2013, au début où ça émergeait. Maintenant, c'est une vraie tendance de fond et on voit que ça répond à plusieurs choses, et notamment une demande des urbains. À Paris, on est dans une ville qui a, parmi les pays européens, qui a très peu d'espaces verts, une ville très dense, et donc on a un réel besoin de développer ces espaces verts. Et comme on est dans une ville dense, il n'y a pas de secret, il faut aller chercher des espaces disponibles, et ces espaces, c'est notamment les toits.
Je rappelle le titre de l'article à lire sur theconversation.fr, toits potagers en ville, ce n'est pas que pour faire joli. Merci Florian, Jennifer Gallet, Baptiste Grard, Florian Gouttière et Thomas Durand, les invités de cette Tête au Carré. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Mathieu Vidard aux commandes de la Tête au Carré. Et juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Albert Londres, l'envers du bagne. Merci aussi à Antoine Théboul et Gilles Gaillard qui étaient à la technique.